Bonjour et bienvenue dans ce 8e épisode de Psychogénéalogie et compagnie, le podcast qui vous éclaire sur la psychogénéalogie et bien d'autres choses encore. Dans cet épisode, pour faire suite au précédent podcast sur les tâches inachevées, je vais aborder plus en détail la question de la transmission du deuil. Comme vous le savez déjà, si vous avez écouté le précédent podcast, les tâches inachevées par une génération s'engramment dans l'inconscient familial et sont transmises de génération en génération jusqu'à ce que quelqu'un achève réellement ou symboliquement la tâche interrompue. Une des tâches inachevées que je rencontre le plus souvent en consultation est le deuil. C'est pourquoi il me semblait important de lui consacrer un épisode. Avant de parler de la transmission transgénérationnelle du deuil, je voudrais revenir sur le processus de deuil en lui-même. Pour reprendre la schématisation d'Elisabeth Kübler-Ross, le processus de deuil est constitué de plusieurs étapes. La première phase est celle du choc, de la sidération, du déni. Puis vient une période de colère, colère contre le défunt, colère contre la médecine, colère contre soi-même. Il y a ensuite une phase qu'on appelle la négociation, dans laquelle on marchande avec des réflexions du type « Pourquoi lui et pas un autre ? J'aurais dû mourir à sa place ?» suivie d'une phase de dépression durant laquelle la tristesse prend le dessus. La dernière phase est celle de l'acceptation, mais je préfère la proposition que font aujourd'hui de nombreux professionnels de l'accompagnement d'appeler cette dernière phase la phase d'adaptation. Ce n'est pas que j'accepte, mais c'est plutôt que j'apprends à vivre avec, que je m'adapte. Je les ai présentées dans l'ordre chronologique, mais en réalité, ces différentes phases ne se suivent pas. Elles sont entremêlées les unes aux autres, avec des allers-retours plus ou moins longs dans chaque étape. Cette façon de schématiser le deuil est aujourd'hui remise en cause par certains professionnels, mais pour moi, elle a l'avantage de nous aider à comprendre la diversité des émotions qui nous traversent. Et là où le bât blesse, c'est lorsque nous restons coincés, entre guillemets, dans une des émotions. C'est ce que l'on appelle le deuil pathologique, celui qui peut rester inachevé et être transmis aux générations suivantes. Mais alors pourquoi restons-nous parfois figés dans une des étapes du deuil? D'abord une petite précision. Comme de nombreux thérapeutes, je ne considère pas qu'on puisse achever le travail de deuil à proprement parler, qu'il y ait un jour où on peut se dire « ça y est, c'est terminé ». J'ai définitivement tourné la page. Mais je vois plutôt le deuil comme un chemin sans fin qui passe par la confrontation à toutes les émotions. Le deuil pathologique, c'est donc une personne qui s'est arrêtée en chemin parce que la personne qui est partie occupait une place indispensable dans la famille. En thérapie familiale, on parle d'un tiers pesant pour désigner ce défunt irremplaçable dont le deuil est impossible. Ou parfois, le deuil ne se fait pas car la personne est comme paralysée par des sentiments de culpabilité ou d'injustice vis-à-vis du défunt. À l'origine du deuil inachevé, on trouve également souvent un deuil traumatique. Ce peut être un décès soudain, imprévisible, un décès contre nature comme la mort d'un enfant par exemple, un suicide ou une mort comportant des aspects horrifiants, ou dans certains cas, l'absence de corps. Ce qui va caractériser ce deuil traumatique, qu'on appelle aussi un deuil complexe et persistant, c'est qu'il va associer à la fois des émotions plus intenses, de honte ou de culpabilité, et des symptômes post-traumatiques comme des flashbacks ou des stratégies d'évitement. Si je prends l'exemple du suicide, le deuil sera plus vaste puisqu'il faudra faire face au traumatisme de l'acte en lui-même, à la question du choix de l'être aimé de mettre fin à ses jours, aux émotions liées à la séparation, comme dans un deuil classique, avec en plus très souvent des émotions de honte liées aux interdits religieux et aux tabous sociaux, une forte culpabilité, une colère contre soi qui rejoint la culpabilité, colère contre le défunt, colère contre les autres, un sentiment d'abandon et une perte d'estime de soi. Je voudrais aussi parler du deuil des enfants morts-nés ou des enfants morts in utero, qui est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Ce deuil est souvent bloqué car jusqu'à une période très récente, les émotions liées à cette perte n'étaient que très peu reconnues, aucun soutien psychologique n'était proposé au père et à la mère, et le soutien familial se résumait très souvent à des phrases du type « Oh, c'est qu'il n'était pas viable » ou « Tu en feras un autre ». Et pourtant, cet enfant a bien existé dans le cœur et dans la tête de ses parents, dans le corps de la mère où tout était en ordre de marche pour recevoir le nouveau-né. Il s'agit d'un deuil complexe, celui de l'enfant idéalisé mais jamais connu, parfois même jamais nommée ni touchée. Il arrivait en effet très souvent dans les années 60-70 que les médecins, pensant protéger la mère, ne lui proposent pas de voir son enfant. Les rituels du deuil, si importants, n'étaient pas toujours respectés. Certains enfants étaient enterrés à la va-vite, dans des carrés réservés aux enfants, dans le caveau familial sans leur nom, ou même au fond du jardin. À la souffrance psychique immense de la perte d'un enfant, s'ajoute ici aussi la culpabilité, la peur d'avoir mal fait, d'être responsable du décès de l'enfant. Je reçois souvent en consultation des mamans qui souffrent de ne pas avoir pris le temps de dire au revoir à leur enfant, de ne pas avoir pu exprimer et partager leurs émotions, et qui vivent avec ce poids qu'elles transmettent à leurs enfants suivants. Au-delà des deuils spécifiques que je viens d'évoquer, il faut reconnaître que nous sommes dans une société où la mort est devenue tabou, où les rites funéraires ont presque tous disparu et où il y a une sorte d'injonction permanente à aller bien, à penser positif, qui fait qu'on se retrouve très vite seul avec sa souffrance sans trop savoir quoi en faire et avec qui la partager. Une fois l'enterrement passé, chacun retourne vaquer à ses occupations et le sentiment de solitude peut être immense. Toutes ces émotions relatives au deuil, qui ne sont pas dites, pas élaborées, qui sont figées dans le psychisme de la personne, sont transmises à la génération suivante par les mécanismes de transmission invisibles dont je vous ai déjà parlé. On retrouve ici la crypte et le fantôme qui ont été décrits par Abraham et Maria Torok. Les émotions liées au deuil restent intactes dans le psychisme de la personne, comme dans une sorte de crypte, ce qui va créer un vide de sens dans le psychisme de leurs enfants et de leurs petits-enfants, qu'ils vont combler par un ensemble de représentations appelées fantômes. Quels sont les symptômes de la transmission du deuil? Les descendants portent ce deuil inachevé sans en avoir forcément conscience, ce qui peut se traduire par une profonde tristesse inexpliquée, un manque de joie ou une incapacité à avancer dans ses propres deuils. Je m'explique. Quand vous avez grandi, par exemple, avec une mère qui n'a pas pu faire le travail de deuil de sa propre mère, imprégnée de son manque, de sa tristesse, quand viendra votre tour de faire le deuil de votre mère, c'est comme si vous en étiez empêché par ce premier deuil. Les symptômes du deuil inachevé sont très divers et variés, et je ne pourrai pas tous les décrire ici. Ils sont intimement liés à l'histoire de la personne qui les porte et symbolisent aussi parfois l'histoire de la personne décédée. J'ai reçu récemment une jeune femme pour des douleurs inexpliquées dans la jambe droite. Elle avait vu plusieurs médecins et fait de nombreux examens sans jamais trouver l'origine de sa douleur. Finalement, son kiné l'avait orientée sur la piste transgénérationnelle. Quand je lui ai demandé si quelqu'un dans sa famille avait eu des problèmes à la jambe, elle m'a d'abord dit non. Puis lorsque nous avons évoqué son grand-père paternel, elle s'est effondrée en larmes alors qu'elle n'avait manifesté que très peu d'émotions jusque-là. Elle m'a alors dit qu'elle n'avait jamais pu dire au revoir à ce grand-père qu'elle adorait, car à l'époque de sa mort, elle était dans une phase de rébellion contre sa famille et n'avait pas souhaité le revoir alors qu'il était malade, ni aller à son enterrement, pour finalement me révéler que ce grand-père était amputé de la jambe droite. On peut trouver, parmi les symptômes du deuil inachevé, des troubles du sommeil, des troubles de la sexualité, des troubles alimentaires, des addictions, des difficultés à entrer en relation, des angoisses, ou des douleurs physiques inexpliquées. Ces symptômes peuvent apparaître à des dates ou à des âges anniversaires du décès de la personne dont le deuil est resté en suspens. Parmi les manifestations physiques, on retrouve souvent des problèmes de peau, symboliques du conflit de séparation, mais aussi d'autres pathologies comme le syndrome de Raynaud, par exemple. Salomon Selam, médecin et psychosomaticien français, a décrit une forme particulière de deuil inachevé qu'il a nommé le syndrome du gisant. En cas de décès injustifié ou injustifiable, la mission est donnée à une personne de la même génération ou à des descendants de remplacer le défunt, une sorte de parade que trouve l'inconscient familial pour ressusciter symboliquement la personne disparue et réparer le drame familial. Ces remplaçants du défunt, ces gisants donc, peuvent développer des symptômes physiques ou des troubles psychiques, ainsi que des particularités comportementales. Un discours très calme, monocorde, avec un vocabulaire en lien avec la mort, une tristesse permanente, une certaine immobilité dans leur posture. Ce sont souvent des personnes qui vont avoir tendance à s'habiller tout en noir, à ne pas supporter le bruit ni la musique, qui vont s'interdire inconsciemment de prendre du plaisir dans la vie et qui disent qu'elles ont l'impression d'être mortes, de ne pas vivre leur vie. Lorsque le deuil d'une personne n'est pas fait, il peut arriver aussi qu'un des descendants soit en quelque sorte hanté et soit investi par l'inconscient familial de la mission de ramener symboliquement la personne dans la famille. C'est ainsi que je vois parfois en consultation des hommes et des femmes découvrir avec stupéfaction que leur conjoint porte les mêmes noms et prénoms qu'un de leurs ancêtres. Comment savoir s'il y a un deuil inachevé dans ma famille ? On peut parfois repérer les fantômes simplement en écoutant le récit de l'histoire familiale. Lorsque vous écoutez un membre de votre famille raconter l'histoire d'une personne décédée qu'ils n'ont pas eux-mêmes connue et que vous repérez que le ton de la voix change, que le visage de la personne blêmit, la voix s'étrangle ou devient blanche, alors là, à coup sûr, vous avez affaire à un fantôme. D'autres indices sont les répétitions de prénoms identiques ou semblables sur plusieurs générations et les répétitions de dates. Dans certains arbres généalogiques, on trouve une date qui revient constamment comme une litanie, comme pour attirer l'attention sur quelque chose, et en général, si on remonte le fil de cette date, on retrouve la date de naissance, de conception ou de décès de la personne dont le deuil n'est pas fait. Salomon Selam ajoute même le concept de date de gisant. Aux 9 mois de l'enfant, celui-ci endosserait son rôle de remplacement du défunt après une période de gestation symbolique. J'ai ainsi accompagné une femme qui était venue me voir, appelons-la Claire, car elle ne se remettait pas de sa séparation avec son compagnon, qui datait de plusieurs années, sans comprendre pourquoi elle n'arrivait pas à faire le deuil de cette relation. Après avoir réalisé son arbre généalogique détaillé, son génosociogramme, comme on dit dans le jargon, nous avons découvert que son arrière-grand-mère avait perdu son mari à la guerre dans des conditions particulièrement difficiles, puisqu'elle s'était retrouvée seule à la ferme avec 6 enfants, dont la plus petite n'avait que 3 mois. Le fait qu'elle se soit suicidée au mariage de son dernier fils est venu nous indiquer qu'elle avait certainement vécu un deuil complexe, et sa date de naissance correspondait à la date de conception de Claire. La date de naissance de son mari mort subitement correspondait à la date de naissance de l'ex-compagnon de Claire, et elle avait appelé son fils du même prénom que cet arrière-grand-père, sans pourtant rien en savoir. Alors vous vous demandez sûrement maintenant comment achever un deuil inachevé. Comme toujours, la communication est un des facteurs clés pour guérir l'arbre généalogique. Lorsque c'est possible, parler de la personne disparue, faire émerger les émotions, pleurer ensemble peut permettre de dénouer bien des difficultés. C'est difficile de parler de la mort car il y a un gros tabou et parfois, sans même que ce soit exprimé, on sent que ce n'est pas autorisé. Pourtant, la guérison passe par la parole. Lancez-vous et accueillez les émotions qui émergent, même si c'est dur sur le moment. Vous verrez que tout le monde se sentira mieux ensuite. Et puisque les rites funéraires ont souvent été inachevés ou menés dans un état de sidération tel qu'ils n'ont pas été réellement traversés et vécus par les proches, je propose aussi d'organiser un rituel de deuil. Ce peut être faire une petite cérémonie et planter un arbre au nom de la personne. Ce peut être faire dire une messe puis se réunir pour les personnes qui sont croyantes. Ce peut être se rendre au cimetière ensemble et lire un poème. L'essentiel est que ça vous parle à vous pour vous permettre de vous libérer de ce deuil infini. Je propose également d'écrire des lettres à la personne disparue, même si on ne la connaît pas, pour exprimer toutes les émotions liées à son départ dans l'inconscient familial et s'en libérer. Si vous êtes vous-même concerné par un deuil long, je vous invite à vous faire aider par un thérapeute. Christophe Fauré, psychiatre français spécialiste du deuil, utilise à ce sujet une image que je trouve très parlante. Il compare le deuil à une blessure grave qui, si on ne la soigne pas, finit par cicatriser toute seule, mais en laissant des séquelles, alors qu'un accompagnement permet une cicatrisation dans les meilleures conditions possibles. Vous trouverez sur Internet énormément de ressources relatives au deuil, les sites des associations d'aide, mais aussi des podcasts. Pour ceux qui préfèrent lire, je vous conseille notamment les ouvrages de Christophe Fauré, « Vivre son deuil au jour le jour » et « Après le suicide d'un proche ». Pour ceux et celles d'entre vous qui ont l'impression de porter un deuil qui ne leur appartient pas, je vous recommande « Le syndrome du gisant » de Salomon Selam. Et je termine ce podcast par les mots de Jean d'Ormesson qui prennent un éclairage tout particulier quand on les entend au travers de la transmission transgénérationnelle du deuil. Il y a quelque chose de plus fort que la mort, c'est la présence des absents dans la mémoire des vivants. Pour en savoir plus sur l'accompagnement que je propose à distance ou en cabinet, n'hésitez pas à consulter mon site internet sophieduverne.com. À bientôt! Si vous avez aimé ce podcast, dites-le avec des étoiles et abonnez-vous pour le recevoir dès sa sortie.